Bonjour Monsieur Paron et bonjour à nos auditeurs. Nous sommes très heureuses, Caroline et moi-même, de vous proposer un numéro d'Anormal à l'occasion de ce direct.
Eh oui, bonjour à tous et bonjour à vous Monsieur Paron. Vous êtes directeur général de l'ENS de Lyon. Et puisque c'est ainsi que l'école s'appelle depuis un an. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre dernière prise de parole sur nos ondes remonte au mois de janvier 2010, si je ne me trompe pas. Alors, comment s'est passée cette année? Mais peut-être avant de dresser le bilan de cette année, voudriez-vous répondre à notre petit humoriste François Mito?
Je trouve qu'il a bien résumé ce qui se passe dans l'école. C'est-à-dire que j'ai un peu une fonction de Père Noël, je suis assez d'accord avec ça. Et tout le monde demande beaucoup de choses. En même temps, je pense que ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'il y a plein de demandes qui émanent, c'est très positif. Je rassure aussi pour la demande de subvention. Ce qui est bien aussi, c'est que nous sommes une instance démocratique. C'est-à-dire que je ne peux pas décider tout seul de tout ce qui est accordé.
Donc si on vous réinvite, ça ne changera rien.
Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que votre activité est extrêmement intéressante. Elle commence à être perçue à l'extérieur. Donc j'ai des retours sur votre activité. Donc... Moi, j'ai toujours été un grand défenseur de tout ce qui a trait à la vie étudiante et vous êtes parmi ce qui se fait de mieux dans la vie étudiante, donc au contraire.
Merci beaucoup, au nom de toute l'équipe. Alors donc, enchaînons sur notre petit entretien. Alors, comment s'est passée cette année pour vous et qu'est-ce que vous retenez comme grands événements?
Je pense qu'on a réussi ce qui était assez compliqué. Je dis « on », c'est évidemment pas moi, c'est l'ensemble à la fois des étudiants, des collègues et des agents. À créer une nouvelle école. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait, bon, il y a d'autres écoles interdisciplinaires, d'autres écoles qui réunissent différentes composantes, mais là, on l'a vraiment fait en disant que tout était partagé. On a une seule direction de la recherche, on n'a pas deux écoles juxtaposées, une seule direction de la formation. Et ce que je pense aussi, c'est que deux écoles qui avaient des traditions et des cultures différentes commencent à vraiment travailler ensemble, commencent à œuvrer du même côté, et en un an, le bilan est globalement positif. J'en prendrai juste un indicateur qui est assez emblématique, c'est que au début, il y avait un certain nombre de peurs, d'angoisses, notamment parmi les personnels, notamment quand il s'agit de réaliser un déménagement entre les deux sites. On avait l'impression que les deux sites étaient des deux côtés de la planète. Eh bien, on a fait ça pendant l'été. Et personne, je dis bien personne, n'a critiqué le déménagement. Et au contraire, il y a eu plutôt l'impression que les conditions de travail étaient au moins aussi bonnes. Vous voyez, c'est le signe, je crois, d'une grande maturité de tout le monde au sein de l'établissement. Et vous-même, étudiant, l'aviez un peu anticipé parce que les bureaux des élèves étaient déjà communs pour les deux sites. Il y avait déjà cette vraie anticipation qui est, à mon avis, un signe très positif.
Alors cette année, ou tout du moins la rentrée 2010-2011 plus particulièrement, a été marquée par l'ouverture de la CPES, donc classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que, après quelques mois d'existence, vous pouvez nous dire donc, de cette nouvelle classe qui a ouvert à l'ENS?
Alors cette nouvelle classe, elle s'inscrit dans toute une série d'opérations dites d'égalité des chances qui existaient avant le bac. Ce que je crois, c'est qu'il fallait franchir une étape, et il fallait franchir une étape en ouvrant une classe post-bac. Cette classe post-bac, elle repose sur trois éléments très importants. Premier élément, nous travaillons beaucoup avec les équipes en amont. Il ne s'agit pas de dire, voilà, l'école normale, c'est tout et fait tout, mais il faut travailler avec les équipes des lycées qui nous permettent d'identifier les jeunes qui pourront suivre la classe. Deuxième idée très forte, c'est de prendre systématiquement, bien sûr, des jeunes de milieux très difficiles. Et troisième idée, j'y insiste un peu parce qu'il y a d'autres expériences très différentes, ce sont aussi des jeunes qui n'ont pas eu des résultats au bac exceptionnels. Je le dis franchement, prendre une mention très bien au bac et en faire un brillant élément du système universitaire, tout le monde sait faire, on serait capable de le faire. Notre idée, au contraire, c'est de dire que si un jeune n'a pas eu les résultats, mais qu'il a une vraie motivation, qu'il a envie de faire quelque chose, qu'il vienne dans cette classe et qu'il réussisse dans cette classe. Ce que je crois aussi, c'est que cette classe, et moi j'ai constaté ces deux classes, l'une pour les sciences exactes, l'autre pour les sciences humaines, ont suscité aussi tout un effet d'entraînement. J'ai vu des collègues qui n'y étaient pas, qui viennent participer. Beaucoup d'entre vous servent de tuteurs. Voilà, c'est aussi, quelque part, un modèle qui correspond aux valeurs qu'on essaye de porter dans cette école. Et à mes yeux, on est la première école à vraiment tenter ce modèle-là. Et je le rappelle, exclusivement sur les fonds qui nous avaient été, qui étaient les fonds qu'on avait. Et là, maintenant, on commence à obtenir d'autres crédits, mais au départ, c'est une opération qu'on finançait en propre.
D'accord. Mais alors, très concrètement, c'est pour faire quoi cette classe? Là, la fin de l'année arrive, et vers où vont aller ces élèves l'année prochaine?
Alors, il ne s'agit pas de faire de l'autoreproduction. Il y a un avenir hors de l'école normale, je rassure tout le monde. Il y a un avenir dans l'école normale, il y a un avenir hors de l'école normale. Il s'agit de donner à des jeunes une possibilité d'avoir, durant cette année dont on sait tous qu'elle est la plus difficile. L'année post-bac, elle est l'année la plus difficile, c'est les années où vous avez 50% d'échecs dans tous les établissements. Elle est de leur donner la chance d'avoir un autre avenir, de percevoir aussi d'autres façons de vivre. Moi, je me rappelle quand on a ouvert cette classe, il y avait une jeune de cette classe-là qui nous a posé une question qui est terrible. Pourquoi vous croyez en moi ? Et c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est lui permettre de croire en elle, ce que personne ne lui a permis de faire. Après, on va les suivre dans une orientation qui va être très tutorée, qui va être très individualisée, qui va être aussi conçue en amont avec les établissements dont ils viennent, pour savoir quelle est la bonne orientation. Et on n'a pas d'idée toute faite. Ce n'est pas grave s'ils ne vont pas en CAGNC, s'ils ne vont pas en maths spé, ils pourront faire un très bel avenir dans les universités, dans les établissements avec lesquels nous travaillerons. L'idée, c'est que l'accompagnement se fasse jeune par jeune, pour vraiment leur avenir à eux, et pas l'avenir tel que nous, on peut le concevoir. Parce que les autres opérations, j'ai été voir d'autres classes préparatoires de ce type-là, c'est vraiment de l'autoreproduction, c'est-à-dire vous construisez des filières pour vous-même. Nous, on construit des filières pour les jeunes. Le sujet, ce sont les jeunes, c'est pas nous, c'est pas notre école.
D'accord. Le 1er janvier 2011, l'ENS de Lyon a aussi fusionné avec l'INRP. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Et pouvez-vous nous expliquer ce que cela apporte à l'école ? Car beaucoup d'entre nous connaissent à peine l'institution et on a parfois du mal à en saisir les enjeux.
Alors c'est un peu différent. Il y a eu la fusion des ENS et on a intégré l'INRP. Mmh. Ça a été une commande des deux ministres, éducation nationale et enseignement supérieur. L'INRP connaissait une situation, il faut accepter l'idée, relativement difficile. L'établissement manquait de visibilité. Il y a beaucoup d'intelligence individuelle, mais probablement l'organisation collective laissait à désirer. Quel a été notre sujet pour nous ? On nous a demandé en septembre de le faire. On a dit, cet institut doit avoir un nouveau rôle, doit correspondre à une nouvelle dimension pour notre école. Il est aujourd'hui aberrant que les sujets d'éducation soient aussi méprisés qu'ils le sont parfois par un certain nombre de personnes dans l'enseignement supérieur, dans d'autres domaines. L'éducation est au cœur de tout. Ce n'est pas l'éducation simplement la formation, c'est aussi une manière de concevoir les rapports sociaux. Pour notre école, sur le modèle de ce que vous constatez quand vous allez dans les grandes universités anglo-saxonnes ou les grandes universités asiatiques, il s'agit aussi d'avoir un département très fort dans l'éducation. Et je rappellerai simplement que nous sommes fondamentalement une école qui forme. Beaucoup d'entre vous deviendront aussi des enseignants. Et ça me renvoie à toute la question sur la formation des enseignants. Eh bien, il est très intéressant qu'un établissement de ce type-là travaille dans un périmètre d'une école normale, pour concevoir, réfléchir, proposer de nouveaux modèles. Et qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, à l'INRP ? On peut apporter une perception de la recherche qui soit globalisée, qui aille du petit enfant, des sciences cognitives, jusqu'à l'enseignement supérieur. Et qu'est-ce que l'INRP peut nous apporter ? Eh bien, la volonté de réfléchir sur l'éducation.
Mais vous le dites vous-même, donc c'est un projet qui vous a été commandé, puisque c'est vos propres mots, en septembre, fait en janvier, et sur un modèle anglo-saxon ou asiatique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un peu un manque peut-être de communication, ou en tout cas de débat au sein de l'école, et que ça nous est arrivé un peu le 1er janvier comme ça, décidé dans de plus hautes sphères ?
Alors là, je vais renvoyer à votre camarade qui m'attribuait le rôle de Père Noël. Alors c'est extraordinaire parce que la communication, et pourtant vous avez fait une radio, pourtant on communique, pourtant on est une petite école, et c'est extraordinaire, dès que quelque chose ne va pas, c'est de la communication. Alors, moi d'abord, je ne comprends pas ce que ça veut dire la communication, parce que quand même globalement, on se voit, on discute, on se rend compte, j'ai toujours plaisir à venir ici. Deuxièmement, il ne s'agit pas de sujets sur lesquels... Bon, il y a besoin de faire des discussions multiples et autres. Il s'agit d'un choix de politique d'établissement, et ce choix, là encore, il est présenté devant les instances. Ce n'est pas un choix qui obéit à une espèce de décision prise dans un bureau. C'est un choix profond pour l'établissement, et toutes les instances, le comité technique paritaire, le conseil d'administration, le conseil scientifique, se prononcent sur ça. Et l'argument de la rapidité, c'est vrai. C'est vrai, mais vous avez 20 ans, le monde change et le monde universitaire change. Le monde universitaire était profondément endormi. Qu'il se réveille un peu et qu'aujourd'hui, on reconfigure ce monde universitaire, si c'est pour aller dans le bon sens, ben, ça sera quelque chose de positif.
Bon, eh bien, alors l'avenir nous le dira. Et justement, parlons d'avenir. Pour cette année donc, qui va arriver, quels sont les grands projets de l'école, puisque donc, on vient d'évoquer l'année qui vient de passer. L'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer?
Je vous rassure, nous allons nous arrêter.
Il n'y aura pas d'autres intégrations?
À vous de me les suggérer. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup grandi. On a fait une seule école avec précisément l'INRP. Il faut réussir ce modèle-là. J'en prendrai un exemple. Derrière le projet de fusion des deux ENS, il y a une idée interdisciplinaire. Cette idée interdisciplinaire, tout le monde sait bien qu'elle est très difficile à vivre. Ouais. Vous prenez des enseignants-chercheurs, des chercheurs, ils vous disent tous, on fait de l'interdisciplinarité. Puis après, quand vous regardez dans les faits, vous avez quand même du mal à faire travailler un historien avec un philosophe, un matheux avec un physicien, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et il faut surtout qu'entre les grands champs, eh bien ça percole, qu'on arrive à des formations interdisciplinaires, qu'on arrive à faire ça. Donc ça, l'interdisciplinarité, c'est le gros sujet. La réussite du lancement de ce nouvel INRP, qu'on veut rebaptiser Institut français de l'éducation, pour qu'il soit plus en prise avec la société, qu'il soit incontournable dans le paysage, c'est un gros sujet aussi. Mmh. Et puis, les sujets qu'on va avoir, et je le dis aussi très clairement, c'est qu'on va avoir à se positionner par rapport, effectivement, à ce monde qui change. Il y a de nouveaux lancements de projets, ce qu'on appelle les initiatives d'excellence, la réalisation du plan campus. À chaque fois, l'école, autrefois les deux écoles, aujourd'hui l'école, est au cœur de ces projets-là. À nous de les animer, je pense, mais je vais être trop prétentieux, mais c'est une caractéristique des normaliens, je vais caricaturer les normaliens, c'est que notre école a une vocation à porter un certain nombre de projets, à animer un certain nombre de projets pour le site de Lyon, mais aussi au niveau national, au niveau international. J'en prendrai juste un exemple. Dans quelques mois, on va signer un partenariat extrêmement fort avec l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous changer en formation. Vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, faire une année à Lausanne et avoir un diplôme d'ingénieur. Et puis en même temps, on va lancer plein de projets complètement interdisciplinaires. Par exemple, sur la ville, un master urbanisme où il y aura autant de sciences humaines que de sciences exactes. Avec l'une des écoles qui est les plus emblématiques au niveau européen, je rassure tout le monde, elle a signé avec Polytechnique. Elle va signer avec nous. Elle a fait le premier master commun avec Harvard. C'est typiquement ces partenariats-là qui vont être notre horizon. Ambition interdisciplinaire, partenariat international, et puis réaliser, nous donner un peu de temps. Je sais que ça a été vite. Je sais que si ça n'avait pas été vite, ça n'aurait pas marché. Donc, il faut se donner un peu de temps parce que, voilà, tout le monde, effectivement, je mesure que c'est quelque chose qu'il faut donner le temps de la réussite. Mais je crois que notre école, si vous prenez, il y a 2 ans, le scénario était que les deux écoles restent séparées, c'était des reconfigurations qu'on ne comprenait pas. Là, ben voilà, on a eu la médaille de Fields, on a eu le classement de centième position, on a eu 10% des collègues qui sont à l'Institut universitaire de France, on ne le dit pas assez, c'est le plus gros pourcentage de tous les établissements, 10% à l'Institut universitaire de France, après vous avez par ici, c'est 1%. Donc voilà, c'est aussi, et puis c'est votre avenir, et des débouchés, on plaisantait tout à l'heure sur les agrégatifs, de très bons résultats à l'agrégation, de très bons débouchés dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, d'accord. D'autres débouchés aussi, parce que c'est important.
Oui, donc parmi les choses qui sont allées vite, il y a aussi les changements qui ont affecté le parcours d'études depuis les réformes engagées par le gouvernement. Que pensez-vous justement de la mastérisation de l'agrégation et surtout peut-être de sa mise en place?
Moi j'ai toujours été, je l'ai dit publiquement, je rappelle que le conseil d'administration de cette école s'est prononcé 2 fois pour la défense de l'agrégation et pour s'interroger sur les modalités de mise en place de cette mastérisation. Moi j'ai toujours été, je l'ai dit publiquement, Je ne partage pas la façon dont est amenée la mastérisation. Mmh. En même temps, je suis un fonctionnaire et j'applique ce qu'on me dit d'appliquer. Je pense que on va en arriver. La question de l'agrégation devient de plus en plus difficile, ce qui est dommage parce que je reste convaincu que c'est un sujet de formation important. Alors en même temps, bon, aujourd'hui, l'agrégation est un concours important, reste important. Mais très clairement, le sujet au sein de notre école, c'est que cette formation à l'agrégation soit couplée de plus en plus vers ce qui est l'horizon, c'est-à-dire une vraie formation à la recherche. Un passage par les laboratoires de recherche, un développement des activités de recherche dans tous les domaines, et précisément avec une clé de lecture interdisciplinaire. Donc voilà, moi je ne partage pas, et ce qui est très intéressant, c'est que sur la formation des enseignants, pendant longtemps, on n'a pas compris comment elle devait être exercée. Le président de la République, dans ses voeux, a annoncé précisément qu'il fallait aller de l'avant et que le scénario n'était pas bon. Mmh. C'est très intéressant qu'il y ait un institut rattaché à l'école qui nous permette précisément d'être un institut où on réfléchisse et éventuellement on apporte des solutions sur cette question-là. Et si on défend ces sujets-là, eh bien autant être acteur de ça. C'est un peu le débat que vous disiez, on va trop vite et tout. Je préfère que notre école soit actrice de son destin qu'elle soit passive. Après, on peut dire qu'être acteur, ça veut dire qu'on se mobilise plus. Bah oui, c'est un peu. Je pense qu'on a tous intérêt à être acteur.
D'accord. Alors maintenant, deux dernières questions, puisque l'horloge tourne, sur l'actualité à la fois de l'école et puis sur une actualité plus nationale. Alors d'abord, en tant que directeur de l'école, directeur général, quelle est votre position sur ce qui s'est passé à Ulm autour de la conférence de Stéphane Hessel? Et j'ai même envie de vous demander, si demain Transistor invitait Stéphane Hessel, que diriez-vous?
Moi, je pense que notre école a vocation à accueillir Stéphane Hessel. Je l'ai toujours dit, nous sommes une école profondément qui doit être un lieu d'ouverture et de tolérance. Je vous prendrai juste un exemple. On m'a demandé d'organiser une conférence de l'Union des étudiants juifs de France il y a 2 ans. Tous les collègues du site de Lyon ont trouvé un bon motif pour ne pas accueillir une union qui est une union bien sûr légale. Eh bien, j'ai accueilli et c'était normal que l'école accueille le colloque de l'Union des étudiants juifs de France. Et au même moment, il y avait un colloque sur Mohamed Darwish, le grand poète palestinien. Le commissaire de police arrive et dit « Vous ne pouvez pas avoir ces deux manifestations au même moment. » Eh bien, si, notre école, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir l'Union des étudiants juifs à ma droite et d'avoir Mohamed Darwish à ma gauche. Et si on n'est pas un lieu de liberté intellectuelle, les écoles normales, il faut qu'on change de métier. Après, je ne me prononce pas sur le dossier, je ne prononce pas sur ce qui s'est passé en tant que réalité. Oui. Ce que je dis simplement, c'est que l'école a vocation à accueillir Stéphane Hessel et l'école a vocation à être un lieu de liberté intellectuelle totale. Et c'est la seule conception que je peux avoir si, bien sûr, sont respectées les valeurs républicaines, mais ça va de soi. Stéphane Hessel a été un grand ambassadeur, c'est un grand personnage. Mmh. Je ne doute pas qu'il respecte les valeurs républicaines.
D'accord.
Bien, nous connaissons le nom de notre prochain invité, Caroline.
Et alors, pour terminer donc, cette interview, une question vraiment qui touche l'école en ce moment et surtout la vie étudiante. Pourquoi est-ce que les soirées en festive ont été interdites et à quand la mise aux normes de la salle festive?
Alors, 2 mots sur ça. Premier mot, très sincèrement, je ne peux pas accepter qu'il y ait des dégradations extrêmement importante de biens publics. Cette interdiction suit des dégradations de biens publics qui sont inacceptables. Je ne peux pas accepter non plus qu'on annonce des fêtes dont je vous rappelle que je l'ai toléré, où il y a marqué le slogan c'est lubricité et ébriété. Voilà, il y a un moment, on est aussi dans une société qui est une société qui doit, qui est une société citoyenne. Deuxièmement, j'ai fait. Il restait sur les crédits de l'année dernière, j'ai fait voter précisément la rénovation de tout le système de la salle festive. Je rappelle que le système, il avait été changé, je l'avais fait changer, il avait été détérioré et que j'ai tenu à ce qu'il soit changé. Après, je m'étonne sur ce dysfonctionnement administratif dont on m'a fait part hier. Ça prouve qu'il y a encore des choses à faire pour améliorer le fonctionnement de cette administration. Ça m'occupera en 2011, si c'était la question sur 2011. Voilà, il reste du travail. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que la vie étudiante ne soit pas... les crédits accordés à la vie étudiante sont à peu près 4 fois supérieurs, ou même plus que ça, par rapport aux crédits qu'on me donne de la part du ministère. Mais en même temps, je ne tolérerai pas, je dis très clairement, d'accord, qu'il y ait dégradation des biens publics et qu'il y ait tag, graffiti ou autres dégâts.
Très bien. L'interview touche à sa fin. Merci à vous, Monsieur Faron, d'avoir accepté notre invitation.
Merci.